Avant de lancer l'excursion, on tenait à vous dire que Tête Beaulieu est soutenue par la Maïf, assureur de référence des tiers-lieux en France.
Pourquoi ? Parce que comme nous, la Maïf souhaite mettre en lumière les belles initiatives de nos territoires, en local et au national. Et ensemble, nous sommes convaincus que les tiers-lieux sont des solutions concrètes pour faire bouger les lignes et inventer une société plus solidaire, collective et durable.
Retrouvez plus d'infos sur la protection et l'accompagnement de la Maïf pour tous vos projets, vos lieux, dans la bio de cet épisode. Et maintenant, jingle !
C'est la première fois que je vois comme ça un lieu qui met autant d'énergie pour vraiment fédérer cette petite ville.
C'est pas parce qu'on ne sait pas qu'on ne peut pas.
Maintenant, je vivrai que pour ces moments-là. T'en as pour des mois après où tu défonces toutes les montagnes, quoi.
Salut, salut la compagnie! On est super heureuse de vous retrouver pour cette troisième saison de Tête Beaulieu. Et oui, déjà!
Nous aussi, on se dit que ça passe bien trop vite. Et pour cette nouvelle saison, on a eu envie de vous surprendre et de sortir des sentiers battus, encore une fois.
Et aussi de parler de sujets qui font avancer tout le mouvement des tiers-lieux, non?
Absolument, très cher. Et je dirais même qu'on va vous faire voyager dans le temps.
Tu sais que je suis une grande fan de Retour vers le futur?
Et ben alors, accroche-toi McFly, car on va traverser les décennies pour creuser le pourquoi du comment. Savoir en gros d'où viennent tous ces tiers-lieux.
Alors on vous propose de raviver et de titiller un peu les mémoires. MJC, écolieux, médiathèque, ZAD, café citoyen, de nombreuses initiatives et projets existent depuis la nuit des temps.
On va redécouvrir ces lieux du social, de la culture, de l'écologie, de l'engagement citoyen. On va aussi se questionner sur les points communs et les divergences de tous ces lieux. Savoir si, quelque part, ils n'ont pas influencé le mouvement des tiers-lieux.
Et puis tout simplement, leur redonner le micro, la parole, voire même créer de nouvelles connexions entre ces différentes actrices et acteurs du changement.
Bon et bien, tu es prête à réenfiler ton sac à dos, McFly ?
Oh yeah, plus que jamais ! Et alors cette fois-ci, on a pris la direction du Pays des Volcans, dans le Puy-de-Dôme, en plein cœur du centre de la France.
On n'avait pas encore fait cette région là d'ailleurs. Ça change de paysage, on est entouré de reliefs plus verts les uns que les autres.
Faut quand même savoir que la région a connu des pénuries d'eau incroyables en ce début d'année 2023. Tiens-toi prête, des camions ont dû affréter de l'eau pour des villages qui en étaient privés pendant des semaines en hiver.
Comme quoi, faut vraiment se préparer au pire avec le réchauffement climatique.
Ça c'est sûr. Et se retrousser les manches pour changer les cultures est vraiment, vraiment vite. D'ailleurs, en parlant de culture, on vous met sur la piste. On arrive dans quelques minutes à Lezoux, une petite ville de 6000 habitants située tout juste à côté de Clermont-Ferrand.
Ouais, on vient de passer le panneau de Thiers. En gros, cette ville, elle est mondialement connue pour la fabrication et le savoir-faire autour de la coutellerie. Allez, on vous emmène à la rencontre de ce joli petit monde. Catherine, Jean-Christophe, Candice, Jules, Karine et bien d'autres encore, on a découvert avec eux la médiathèque d'Or et d'Allier.
Un petit havre de paix qui réinvente depuis bientôt 10 ans le sens de la culture au service des citoyens et citoyennes. Avec pour objectif central de mettre tout ce petit monde au cœur de toutes les démarches.
Eh mais, ce serait pas Jean-Christophe là-bas ? Le directeur de la médiathèque ? Je les vois avec ses petites lunettes rondes, ça me dit quelque chose. Je crois qu'ils nous attendent pied ferme, allez, on se grouille.
Eh ben merci Manon, merci Lucas.
Bonsoir toute l'équipe.
On va les pousser, t'inquiète.
Alors Jean-Christophe, et je travaille donc au sein de la communauté de communes entre Dor et Allier depuis maintenant plus de 10 ans. D'abord en tant que chef de projet pendant 6 ans, donc pour la construction et la mise en œuvre de la médiathèque intercommunale et de son réseau. Et depuis 2018 en tant que directeur du réseau. Ce bâtiment-là, c'est un bâtiment qu'on a depuis le début essayé d'imaginer avec les gens, dès 2013. Dès que les élus ont validé la construction de cet équipement intercommunal, on a tout de suite mis en marche en fait, un temps de rencontre avec les habitants du territoire, en se posant la question tout simplement de se dire que voilà, les élus peuvent financer et peuvent lancer la construction d'un équipement. Les financeurs peuvent accompagner la construction. Les bibliothécaires sont les professionnels qui vont y travailler. Mais je pense qu'il est quand même intéressant de se poser la question aux gens en fait, qui vont l'utiliser et qui vont en être les principaux utilisateurs. Donc on a eu une résidence qu'on appelle maintenant résidence de design de service, donc, qui a posé avec la population tout de suite la manière dont cette population, alors pas toute, bien sûr les 20 000 habitants du territoire ne sont pas précipités aux rencontres, aux ateliers qu'on a pu mettre en place, mais on a 300, 400 personnes qui sont passées durant 6 mois de résidence. Voilà, où on a imaginé avec les gens ce qui pourrait se passer dans ce bâtiment. Et on a travaillé donc sur ce qu'on appelle maintenant aussi la notion d'usage en bibliothèque. Donc tenter d'imaginer un équipement qui permettrait d'accueillir des usages auxquels peut-être spontanément on n'a pas pensé, et qui serait en lien avec les préoccupations, les attentes, les souhaits, les besoins, les envies des gens du territoire. Et puis, on l'appelle aussi des fois la médiathèque dont vous êtes le héros, parce que j'ai pris l'habitude de dire que voilà, la puissance publique permet la construction et la proposition culturelle, parce qu'elle peut mettre un peu d'argent dessous, payer un bâtiment, payer des gens pour la faire vivre. Mais là, ce qui s'est passé finalement, c'est que voilà, la collectivité a aussi accepté que son territoire, les habitants de son territoire, puissent venir l'enrichir à son tour et qu'on ait ce système de va-et-vient entre le dedans et le dehors pour faire en sorte que le territoire apporte sa richesse, apporte sa compétence, apporte ses savoir-faire et en fasse profiter le plus grand nombre. Donc le hall, ici, tout de suite assez conséquent, qui nous permet d'accueillir des expositions qui nous permet surtout de travailler sur un accueil différencié des populations. Le hall est surtout l'occasion d'avoir la presse, une petite machine à café. Voilà, c'est l'occasion pour beaucoup de personnes qui, en fait, ne rentrent pas forcément dans l'autre partie du bâtiment, s'arrêtent ici, juste pour lire le journal. Et puis pour discuter, quoi, du coup. Alors, une des marques de fabrique aussi, peut-être, de cet espace-là, c'est le grand tableau blanc, qu'on avait pensé à l'origine comme étant un véritable support pour les bibliothécaires, pour faire passer tout ce qu'ils avaient à faire passer. Et en fait, on s'est vite aperçu que ça ne servirait pas à ça, et que ça allait être davantage un espace pour que les usagers fassent passer un certain nombre de choses, quoi, en fait. Donc, c'est vraiment un lieu où les gens se pointent avec plaisir et se plantent avec plaisir. Donc, ils peuvent y découvrir à la fois les rendez-vous du bâtiment, bien évidemment, et puis différentes autres choses qui peuvent être des rendez-vous sur le territoire, mais aussi des petites annonces. Je vends mon canapé-lit, je vends une ancienne bourouette, enfin, etc., peu importe. Donc, c'est vraiment un lieu d'échange des habitants. On peut aller, si tu le veux, jusqu'à l'auditorium. Et juste pour finir sur le hall, donc deux petits bureaux ici, donc qui sont les bureaux donc, où on a le conseiller numérique ici, et on a la permanence de la mission locale. Okay. Voilà, donc là aussi qui fonctionne. La médiathèque peut être fermée, mais ces deux espaces-là peuvent fonctionner. La particularité donc, est sur l'espace jeunesse, vraiment, où là aussi on voulait, pour tout le travail qu'on fait sur les temps de raconter ou de lecture, ne pas mobiliser une salle autour de ça, mais vraiment, on a créé un mobilier gradiné, donc on va aller le voir, qui nous permet d'avoir une petite salle de spectacle avec la chaise du compteur. Et on a surtout un merveilleux rideau rouge qui se ferme et qui crée un espace fermé pour qu'on puisse raconter des histoires.
C'est ce que tu disais tout à l'heure, Débo. Il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les âges là-dedans. Par contre, faut quand même savoir que l'esthétique du bâtiment, ça n'a pas dû aider au début.
Moi, j'adore, clairement. Mais je comprends que ça ne plaise pas à tout le monde. Après, le fait que les murs soient des vitres, en fait, il n'y a pas de cloison, tout est ouvert, tu peux moduler, etc. C'est hyper beau, c'est hyper agréable. Mais bon, c'est vrai que dans un vieux village avec des maisons en pierre et tout le tralala, ça fait peut-être un peu trop moderne.
Avec ces grandes baies vitrées, tu te sens aussi bien dehors que dedans. J'aime bien aussi.
Ouais, mais je crois que c'était clairement l'objectif de l'architecte en question. Il s'appelle David Serrero, d'ailleurs. Et quand il a pensé le bâtiment, c'est ça qu'il avait en tête. Quelque chose de très lumineux, de très ouvert, de modulable.
Je m'appelle Marie-France Marmy. Je suis habitante de Lezoux, de la commune de Lezoux depuis 1982. C'est important que je le dise puisque j'ai choisi de venir dans un milieu un petit peu rural tout en travaillant à la ville, donc pour, à Clermont-Ferrand. Donc je suis depuis très longtemps élue dans cette commune. J'en suis actuellement la première adjointe et je suis depuis plusieurs mandats élue à la communauté de communes et actuellement vice-présidente en charge de la culture, donc de ce bâtiment extraordinaire qu'est la médiathèque. Les communes de notre secteur se déconsidèrent souvent par rapport à Clermont-Ferrand qui a absorbé, je dirais, l'ensemble des événements culturels. Et nous, nous on est en milieu rural, une médiathèque de cette ampleur, c'est pas pour nous, personne n'ira, les gens vont sur Clermont, tout ça. Et en fait, il s'avère aujourd'hui, vous le constaterez par votre présence, que c'est pas du tout le cas. Les gens vont de moins en moins sur la ville pour différentes raisons. Il est vrai que les communes, peut-être les petites communes, se sentent moins concernées par cet équipement et donc peuvent penser que l'argent affecté à la médiathèque pourrait peut-être servir à autre chose. Puis la culture, vous savez, c'est quand même un monde un petit peu, à part, un monde un petit peu oublié. La culture, on fait de la culture quand on a à manger, quand on a d'autres structures autour. Je ne dis pas qu'il faut faire comme ça, mais souvent la culture, elle arrive en dernier. La culture, c'est quand on a tout le reste. Et donc, on a effectivement des communes, des élus de certaines communes qui adhèrent pas, qui ne nous suivent pas. Alors, il n'y a pas d'opposition, mais ne comprennent pas toute cette démarche, tout le budget qui est mis sur ce bâtiment. Donc, moi, je me suis toujours attachée à ce qui se passe des choses dans ces communes-là.
C'est quand même incroyable, cet accueil qu'a reçu la médiathèque dès les premiers mois. Je suis quand même scotchée pour une si petite ville.
Après, faut quand même pas oublier que c'est un projet porté par la communauté de communes.
Alias la Comcom.
Et si un tel succès, ça veut dire que ça répond carrément aux enjeux du territoire.
Et justement, je crois que tout le travail avec la 27e région a dû vraiment aider à faire adhérer au projet avant l'ouverture. Je pense que les gens se sont sentis vraiment considérés et que le dialogue a pu s'ouvrir.
Mais c'est quoi la 27e région, Déborah ?
Ah oui, c'est vrai. Eh bien, grosso modo, c'est un laboratoire, entre guillemets, de transformation publique. C'est une asso indépendante. Ils inventent et réinventent les services, les administrations et les modes d'action de demain.
Ouais, je vois le truc. Ben, je pense que ça a vraiment participé à co-construire la démarche, en tout cas.
Et dis-toi que les gars, ils se sont quand même chauffés. Ils ont fait des permanences sur le marché. Bon, après, tout n'a pas été tout rose non plus tout le temps.
Ouais, j'ai entendu que tous les élus n'étaient pas forcément emballés par l'idée au départ. Et puis, il y avait déjà des bibliothèques dans le coin. Et même dans le village, les gens ont eu peur des effets de concurrence, que toutes ces petites bibliothèques disparaissent.
Au profit aussi de certaines subventions, je crois qu'il y a aussi de la compétition, faut pas se mentir. Et ça a donné quoi, du coup ?
Plus ou moins l'effet inverse, en fait. Les équipes de la médiathèque ont fait un gros travail de synergie avec les bibliothèques du territoire et je pense que ça les a même un peu poussés à se réinventer.
En trois mots, la médiathèque de Lezoux, le premier, je dirais, participation, atypique et solidaire.
La convivialité, bien entendu, on va la mettre en premier. Grande diversité, et puis les rencontres. Et puis, c'est vrai, le côté un peu, au lieu de se renfermer chez nous, on s'ouvre aux autres.
Collectif, collectivité, rencontre.
Rencontre.
Ouais. Et amusement.
Voilà. Il a tout dit.
Moi, je m'appelle Karine Meyer. J'ai double casquette aujourd'hui, en tout cas à la médiathèque. Je suis venue profiter avec mes enfants, on vient régulièrement. Et puis, pour nous, c'est aussi un lieu où on vient voir des spectacles. Et on est artiste de cirque et de théâtre. Et on a eu l'occasion de venir jouer un spectacle ici à l'Auditorium au mois de mars. On vient chercher des livres, on vient découvrir des nouveaux livres et tout ça. Mais on en profite aussi. Pour moi, c'est vraiment aussi un lieu de vie parce que souvent, il y a des lieux où il y a des jeux pour les enfants. Donc là, souvent, il y a des rencontres qui se font. Ça, c'est pas forcément... on va dire qu'il y a la plaine de jeux à côté aussi. Mais du coup, ça crée vraiment plein d'interactions. Et puis, on essaye de venir voir des spectacles. Enfin, c'est un lieu à la fois culturel et vraiment un lieu de vie, en fait. Moi, je sais que ça m'arrive aussi à des moments, ça peut m'arriver de venir travailler pour moi toute seule, sans les enfants, de venir prendre un temps pour moi en tant qu'adulte. Et c'est un lieu hyper agréable, lumineux. Les gens sont très, très accueillants aussi. Donc, c'est un vrai lieu de vie pour nous. On était dans une grosse ville, mais les médiathèques, j'ai envie de dire, étaient un peu plus vieillottes. Et avec des, c'était des lieux intéressants aussi. Bah oui, on en connaissait plein de médiathèques à Lille, mais celle-ci, elle est, je sais pas, moi je trouve qu'elle a une âme assez un peu plus particulière. Et puis dans une toute petite, enfin c'est une petite ville quand même, Le Zoo, et du coup on retrouve aussi régulièrement des gens de l'école. Nous on est dans un village à côté, mais du coup on retrouve d'autres gens du village. Voilà, donc c'est hyper agréable.
Tu vois, moi aussi je commence à sentir cette âme particulière dont il parle. C'est assez unique la manière dont les personnes peuvent prendre en main tous les projets qui leur passent par la tête ici.
Tu dis ça par rapport au fait que ça soit hyper ouvert ?
Bah oui, c'est ouvert et en plus il y a plein de publics différents. Regarde, depuis ce matin, on a croisé des jeunes, des personnes plus âgées autour de leur journal et de leur café. On a même croisé Karine et ses enfants qui sont venus bouquiner tous ensemble. Je trouve qu'on est quand même loin de la médiathèque Bobo, Intello et que la mixité, on la voit.
Et puis on sent qu'ici c'est un lieu où tout le monde peut proposer des choses, à s'investir à son niveau. C'est un lieu de vie qui est vraiment choyé et nourri par les habitants et habitantes.
D'ailleurs, on la surnomme la médiathèque dont vous êtes le héros. Ça résume bien le principe, non ?
Absolument. Et en parlant d'ailleurs d'héroïne, je te propose d'embarquer avec Fabienne, Patricia et Mathilde pour découvrir le groupe de la Grénothèque.
Voilà, donc d'abord les plantes dans la tisanière. La température de l'eau, 85-90 max. Je verse l'eau sur les plantes, un tout petit peu d'eau, ce qui permet de rincer la plante, de réchauffer la tisanière et de permettre aux huiles essentielles d'être mobilisées. J'attends une minute et je jette l'eau. Voilà. Et seulement après, je verse l'eau pour la tisane. Et voilà, une belle, bonne tisane avec les plantes fraîches du jardin.
Je suis Mathilde Thelma, donc je suis passionnée des plantes, surtout des fleurs comestibles. Donc j'adore tout ce qu'ils mangent. Et d'ailleurs, ce qu'on appelle les mauvaises herbes, moi je préfère les appeler des punks, donc plantes alimentaires non conventionnelles. Parce que tout se mange. Et j'ai continué dans l'exotisme, je suis brésilienne. En septembre 2018, la médiathèque, elle a proposé un grand projet autour du jardin. Et donc, c'était un projet collaboratif. Et puis, au départ, ça s'appelait Ramène ta graine. Donc, nous étions une trentaine de bénévoles. Donc, il y avait des bricoleurs, des passionnés des plantes, des passionnés des tricots, une illustratrice et puis pas mal de curieux aussi. Donc, on s'est retrouvés une fois par mois, donc des soirées. Et ces soirées étaient très riches, en fait, d'échanges et des bons moments. Et donc, au bout des 8 mois, donc à chaque une fois par mois, on a mis en place donc une grénothèque, des bacs à légumes et un hôtel à insectes. Et donc la grénothèque, donc elle est mise en service depuis 4 ans. Et donc on peut échanger librement des graines, donc donner et prendre des graines comme on veut en fait. Des fois, il y a des belles histoires. Il y a des graines qui viennent de chez les grands-parents, chez des copains, qui viennent de même d'autres pays. Et ce qui est sympa, c'est de connaître cette histoire. Et donc, on a préparé des petites, pour les dons des graines, on a préparé des petites fiches et on souhaite que les personnes nous racontent l'histoire. Bien sûr, c'est volontaire, la personne n'est pas obligée. Mais c'est plus riche qu'acheter un paquet des graines qui, on ne sait pas dans quelles conditions elles ont été préparées.
moi, le plaisir, c'est vraiment sur le plan humain, les échanges. C'est que certes, on se retrouve une fois par mois, on peut travailler, on peut rencontrer d'autres personnes, parce que souvent, il y a des personnes qui passent à la médiathèque, qui s'arrêtent, qui nous posent des questions. Et ce sont des gens qu'on retrouve après 2-3 mois, qui reviennent, qu'on rencontre dans la rue, qui nous demandent des nouvelles. Donc, ça crée vraiment un vrai lien. Après, ce qui est aussi très important, c'est qu'entre nous, il se passe quelque chose. C'est-à-dire qu'on se rencontre, on se retrouve à l'extérieur et on trouve vraiment un vrai... on peut échanger, mais sur d'autres sujets que les plantes. Il y a vraiment une richesse incroyable. Et je pense que là, vraiment, je remercie vraiment la médiathèque pour ça. D'avoir su mettre ça en place, d'avoir su... c'est un lien quand même assez innovant, parce que je ne sais pas, ça se trouve quand même pas... Moi, c'est vrai que voilà, j'ai beaucoup bougé et c'est la première fois que je vois comme ça un lieu qui met autant d'énergie, parce que ça demande beaucoup d'énergie, Karina, tu mets beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, pour vraiment fédérer. Fédérer cette petite ville, fédérer les énergies, fédérer le temps que chaque personne peut mettre dans les actions. Et je trouve ça mais vraiment formidable. Et ça donne de l'espoir, je trouve.
J'ai vraiment eu l'impression que le temps s'arrêtait chez Fabienne. C'était super doux. Ce jardin, alors, enfin, c'est carrément une merveille. Avec tous les grands arbres, ce petit espace à côté de la mare, là, en mode petit espace détente.
Ouais, moi, c'est surtout son jardin des plantes médicinales sur lequel j'ai complètement phasé. C'est foisonnant, il y en a de partout. Et puis ce grand ginkgo avec les feuilles en forme d'éventail.
Ouais, c'est magnifique. Et pour revenir au groupe de Grainothèque, c'est dingue. Elles ont vraiment une énergie de la transmission entre les personnes, mais surtout entre les générations. Ça se voit, enfin, c'est flagrant. Et d'ailleurs, Mathilde, elle disait que pour elle, c'est hyper important de faire en sorte que les savoirs se perpétuent.
Parce qu'il y a des choses qui se perdent, en fait, au fil du temps, avec les mouvements démographiques, des campagnes vers les villes, je trouve.
On peut naïvement penser qu'avec la tendance du retour à la campagne, bah, certaines populations, etc., ça va peut-être changer les choses et des choses se recréeront.
En tout cas, on le voit bien ici, à la médiathèque, ils s'en donnent les moyens. Aujourd'hui, il y a quand même une grainothèque, un jardin des merveilles, un séchoir solaire et même un petit hôtel à insectes bien mignon. Et tout le monde se réunit une fois par mois pour échanger des graines. Et dis-moi, c'est quoi tous ces petits post-it collés à la baie vitrée de la médiathèque ?
Eh ben ça, je crois que c'est un projet artistique avec Catherine et plein d'autres personnes. Mais on peut lui poser quelques questions pour en savoir plus.
Allez.
Bonjour, je m'appelle Catherine Primo. Je suis plasticienne spécialisée art textile. Et j'interviens à la médiathèque entre Dor et Allier souvent. L'histoire textile avec la médiathèque, ça date de l'inauguration, où on a commencé par faire un gros projet de tricot graffiti dans la ville et aussi dans les points médiathèques, surtout le territoire de la Comcom. Alors c'est le tricot graffiti, c'est d'installer des choses qui sont faites en crochet ou en tricot dans la ville sur les éléments urbains d'une ville. Et après, souvent autour des arbres, des poteaux, ou des choses comme ça, voilà. Donc c'est mettre un peu de couleur sur les lieux. J'ai toujours fait de l'animation, mais dans des ateliers plus classiques, tu vois, d'art plastique, ou avec enfants, adultes. Là, c'était différent parce qu'on m'a demandé, vous appelez ça des projets participatifs, où en fait, on donne juste un cadre. Dans les ateliers, en fait, on donne un sujet... Les participants font leur devoir, on aura une copie, voilà. Là, c'est différent parce qu'il faut proposer, un petit bout de quelque chose, et il faut que les participants aient envie de tirer sur ce petit fil, se l'approprier, faire des propositions. Et après, mon rôle, c'est de les accompagner dans ce qu'ils ont envie de faire, de rendre possible l'idée qu'ils ont eue. Mais que ce soit pas mon travail à moi, que ce soit vraiment le leur, que je leur apporte les technicités ou de rendre formelle une pensée. Et c'est vrai que ça c'était vraiment nouveau pour moi et ça m'a ça m'a vraiment apporté énormément, parce que du coup, ouais, là, il y a les larmes qui vont venir. Ça ouvre vraiment aux autres. Et finalement, moi, c'est devenu quelque chose d'important de travailler comme ça, en fait. Après, c'est vrai que c'est pas traditionnel comme atelier, mais ici, quand même, il y en a plein d'autres ateliers qui ne sont pas traditionnels, qu'on trouve pas dans les médiathèques. Mais c'est ce que je trouve de vraiment particulier ici, à la médiathèque entre Dore et Allier, c'est que l'équipe qui gère le lieu est ouverte vraiment à toutes les propositions. Et que si elles peuvent nous aider à y mettre en place, ils le font, quoi. Ils font vraiment, mais dans tous les domaines culturels. Et même si c'est pas ce qu'on appelle la culture en général, ils trouvent toujours de toute manière le chemin de traverse pour y ramener dans le sens culturel. Et ce qui est extraordinaire, moi je vois pour maintenant avoir vécu plusieurs années en projet avec eux, ils ont une confiance absolue en nos savoir-faire et nos compétences. Ils ne mettent jamais en doute ce qui va se faire. Et que ça va réussir dans le sens, ça va germer, qu'il y a quelque chose qui va se produire. De toute manière, si c'est pas un résultat formel, il y aura quelque chose d'autre qui sera nourri, qui aura vécu pendant ce moment d'aussi important, que ce soit dans le lien social ou dans le faire, ou voilà. Et quelque chose qui nourrit, ça nourrit toujours de toute façon le territoire, ces gens-là, quoi.
C'est dingue quand même, c'est toujours la même chose, j'ai presque ma petite larme à l'œil. Franchement, ça défonce ce qu'elles ont réussi à faire, tu trouves pas? Je trouve l'idée du tricot super intéressante. Tu fais sortir le projet de ces quatre murs pour aller vers. Cette notion est importante dans le mouvement des tiers-lieux, on l'a déjà bien vu. Il s'agit pas que d'attendre bien sagement que les gens viennent dans les lieux, il faut aller vers eux. Et en plus, Catherine, elle a vraiment le cœur sur la main, on fond à ses côtés. On est chouchouté quand on est avec elle. D'ailleurs, tu vois la reproduction de la médiathèque, là, dans l'entrée?
Bah oui, bien pourquoi?
Ben, figure-toi que c'est la maman de Catherine qui l'a réalisée.
Ah ouais? Elle est balèze, hein? C'est une vraie famille d'artistes, en fait.
D'ailleurs, elle nous a invités chez elle pour découvrir son musée de Lego. Oui, oui, t'entends bien, de Lego. Faut se mettre en route. Allez, allez, hop, hop, hop!
Vous êtes à Le Zoo, rue Berthier, sur la mezzanine qui est le refuge des Lego.
Voilà.
Donc vous avez toute la collection. Et là, là vous avez la ville. Alors la ville qui est, y a toutes les pièces sont Lego. Quand on fait partie d'un LUG, qui est un groupement d'amateurs de Lego. Lego User Group, on n'a pas le droit d'avoir d'autres pièces que des Lego, des pièces Lego pour monter, soit chez soi, soit en exposition. J'en ai fait il y a un petit moment déjà, j'en fais plus. Donc là, vous avez la partie fête foraine, où vous avez un petit moteur qui doit fonctionner.
Oh là là! C'est absolument...
On retombe en enfance. Hein.
C'est par ma fille, je crois. On m'a demandé si je voulais, si ça m'intéressait, comme tout le monde sait un peu que je construis en Lego, si ça m'intéressait de construire une maquette de la médiathèque en devenir. Et bon, j'ai dit oui, pourquoi pas. Et puis, donc, j'ai eu accès au plan de l'architecte et je me suis dit, bon, bah, je vais construire. Et là, c'était pour le point info de la communauté de communes, pour que les gens de toute la communauté de communes voient un peu comment est-ce que ça allait ressembler enfin. Donc, avec le plan de l'architecte et les plans, et Lego, et j'ai essayé de trouver déjà les pièces. Il a fallu que je trouve les pièces parce qu'il fallait que je fasse quelque chose qui soit pas énorme, mais qui soit quand même dimensionné. Je sais pas comment vous expliquer, que ça soit proportionné au bâtiment. Et puis ça a été exposé. Et après, une fois que la médiathèque a été construite, ça a été transféré dans la médiathèque. Moi, je pense que ça a apporté beaucoup, non seulement à Lezoux, mais à toute la communauté de communes, parce que il y a vraiment des animations intéressantes, parce qu'il y avait plus rien. Enfin, bon, il y a quelques concerts à Lezoux et tout, mais il y en a de moins en moins. Il y a eu même des festivals, mais il y en a plus. Et là, à la médiathèque, il y a des concerts. Ciné-Parc revient, alors qu'il était, on le voyait plus, on le voyait dans les petites communes environnantes, mais. Maintenant, il est revenu à la médiathèque, il y a du cinéma, il y a des expositions, il y a un accueil pour les livres, on est écouté et tout, quand on cherche quelque chose, on a toujours des réponses. Et puis je vois, on va, avec ma fille, on va souvent lire, on va lire le mercredi. C'est incroyable le nombre de parents qui emportent des livres, ils emportent des sacs de livres pour la semaine ou pour les 15 jours, je ne sais pas. Enfin bon, c'est vraiment, ça apporte beaucoup de choses.
Non mais cette Danielle alors, elle est vraiment trop chouchou.
Franchement, j'ai jamais vu un musée comme ça chez quelqu'un. C'est vraiment impressionnant. Et puis elle a la patate cette femme.
En même temps, quand tu vois la fille... Tu te dis qu'elle ne tient pas ça de nulle part, hein, clairement.
Oui, c'est clair. Et quand je l'écoute, j'entends bien qu'il y a eu un avant et un après médiathèque. Tout se recentre là-bas depuis ces dernières années, et j'ai l'impression que ça devient un point névralgique de la ville et même carrément de la com-com.
Après, Jean-Christophe me disait qu'il y a quand même environ 30% des habitants et habitantes qui viennent à la médiathèque de la com-com. Et pour lui, bah, il voit surtout les 70 autres % à aller chercher, en fait.
Bah oui, et puis on n'a jamais 100% des publics, hein, en soi. Mais bon, les équipes ne se défilent pas. Elles se démènent pour que le lieu réponde à un max d'attentes. Tout est possible ici.
D'ailleurs, il y a Candice du Cinépark qui nous attend pour papoter un peu. Elle vient tout juste de terminer une séance ciné avec les élèves du collège dans l'auditorium.
Je m'appelle Candice. Je travaille à Cinépark, qui est un cinéma itinérant. Et je ne suis pas tout le temps à la médiathèque, je viens de temps en temps pour faire des projections avec mes collègues. Là aujourd'hui je suis là pour faire des projections scolaires pour une école de Lezoux, dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle École et Cinéma. Et ils regardent un film qui s'appelle Une vie de chat. Cinépark a plus de 30 ans, c'est un cinéma itinérant qui s'est mis en place sur le parc naturel régional Lièvre-Adois-Forez à une époque où il y avait une... volonté politique de développer le cinéma pour que les gens n'aient pas à faire plus de 30 minutes de voiture pour voir des films, pour avoir un accès culturel comme tout un chacun devrait pouvoir l'avoir. Et donc, en fait, ils ont développé. Donc, il y a plusieurs lieux de projection, 26 actuellement, où on se déplace, on a des projecteurs mobiles. Donc, on installe des salles. Souvent, là, c'est un peu exceptionnel dans la médiathèque, c'est une salle... presque de spectacles, etc. Mais habituellement, c'est plus des salles polyvalentes, des salles des fêtes qui ne servent pas vraiment au cinéma habituellement, plus à des mariages, des lotos, etc. Et qui sont transformées le temps d'une soirée ou d'une journée en salle de cinéma parce qu'il y a un écran, parce que parfois il y a des sièges mobiles et que nous, on installe le projecteur pour que les gens aient les projections en qualité cinéma. Ce que ça apporte... moi, je suis vraiment venu bosser là... pour l'éthique de la structure, en fait, hein, le fait d'apporter vraiment les films au plus près des gens. Moi, ce que j'aime, c'est que en fait, les gens se sont appropriés ce qu'on pourrait appeler ça un outil, en fait. C'est devenu leur cinéma. On passe assez de films pour qu'ils... Enfin, voilà, s'ils veulent voir... on passe 4 films sur 3 semaines, ils peuvent voir... je ne suis pas sûr qu'il y ait des citadins qui voient autant de films que ça. Et on a des gens qui circulent sur plusieurs lieux de projection pour voir tous ces films, et des films autant à réessai que grand public. Donc en fait, moi, ce que je trouve que ça apporte, c'est surtout un accès, comme sur n'importe quel territoire, voilà, à la culture, au cinéma, et surtout à des moments conviviaux, parce que je ne dis pas que dans les autres cinémas, il n'y a pas des moments conviviaux, mais c'est vrai que les gens se retrouvent, souvent c'est dans des villages, les gens se connaissent, etc. Voilà, c'est un peu, ça leur appartient un peu aussi, je trouve.
Il
Moi, je m'appelle Justin. Je suis conseiller numérique à la médiathèque, mais en fait pour toute la communauté de communes. Et donc, conseiller numérique, le but du métier, c'est en fait d'accompagner les gens éloignés du numérique pour les rendre autonomes sur l'ordinateur, smartphone, tablette. Souvent, je fais la blague, mais je dis aux gens, si vous m'emmenez un frigo qui a un écran, on peut essayer de regarder pour le dépanner. Et donc, en fait, le but, c'est aussi dépanner les gens quand ils ont des problèmes qui sont bloqués sur le téléphone, mais aussi d'apprendre vraiment de zéro pour qu'ils soient autonomes, être capables de se débrouiller, d'envoyer des messages à leurs petits-enfants, de faire de la visioconférence, mais aussi, du coup, de pouvoir, par exemple, déclarer leurs impôts en ligne et être capables de se débrouiller tout seuls, même regarder une vidéo YouTube ou une vidéo sur Netflix. Ça peut être intéressant aussi dans leur apprentissage. Donc moi, je suis principalement à la médiathèque à Lezoux, mais je me déplace sur les 14 communes de la communauté de communes pour être au plus près des gens qui ont des soucis de mobilité, pour pouvoir aider tout le monde. Et je suis tous les samedis matins en permanence à France Service, qui est du coup un bâtiment qui a ouvert en juillet 2022, à côté de la mairie de Lezoux. Et en fait, là-bas, on a accompagné plus de 1500 personnes, je crois. Dans le métier de conseiller numérique, on n'est pas que technicien. On n'est pas formé que à être derrière un ordinateur. On est aussi formé à avoir un aspect social, et donc discuter avec les gens. Et dans le social, quand on ne sait pas, il ne faut pas hésiter à dire qu'on ne sait pas. Donc ça ne veut pas dire qu'on aura toutes les réponses pour aider les gens, mais par contre, on prend le temps quand même d'accompagner les gens, de faire de la médiation avec eux, et de trouver une solution ensemble. Donc parfois, ils vont venir nous voir, ce sera complètement une demande qui sera à côté de la plaque, mais nous, on est là pour les réorienter et faire en sorte que tout soit bien, que tout le monde soit content à la fin de la séance. Souvent, j'ai des gens, des fois, on s'éloigne complètement du numérique et on part sur des choses qui sont vraiment propres à eux, leurs émotions. Et ils me disent « Ah, je suis désolé, on est sorti. » Je dis « Mais c'est pas grave, je suis aussi là pour ça. » Conseiller numérique, c'est pas que je suis pas un technicien, je suis pas un informaticien, je suis là pour discuter avec les gens et que les gens se détendent aussi quand ils viennent à la médiathèque. Ce qui, pour moi, est aussi le but du lieu, de se détendre. Je trouve que l'équipement est assez extraordinaire. L'auditorium qu'on peut avoir, les projets aussi qui peuvent se porter. Je suis pas sûr que dans toutes les médiathèques, on ait des grénothèques, qu'on ait des meubles interactifs, qu'on ait des escape games qui se déroulent des fois au sein de la médiathèque. Qu'on puisse venir emprunter une console, la ramener chez soi. Je n'ai pas vu ça partout non plus. Donc voilà, c'est assez intéressant. Et puis, moi, ce que je trouve vraiment bien dans cette médiathèque, c'est que n'importe qui est capable de proposer un projet qui peut être ensuite créé par la suite, par les bénévoles qu'on a, par les héros, mais aussi par l'équipe. Enfin, moi, je sais que dès que j'ai une idée, je vais en parler à Jean-Christophe directement ou à Marie et à Guillaume. Et ben, directement, on va faire une réunion et on va parler de ce projet et ça va vraiment prendre de l'ampleur. C'est quelque chose, je sais que quand j'étais à l'école avant, si je proposais des projets, on pouvait me dire « Non, c'est pas possible. » Que ce soit avec des camarades ou avoir des projets entre potes, c'était pas forcément possible. À la médiathèque, quand on propose un projet, c'est vraiment étudié et pris au sérieux. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment bien.
Moi, je suis Elsa, je travaille donc à la médiathèque de Lezoux. J'y suis depuis 5 ans et je fais différentes choses, donc tout ce qui est service public, j'accueille les gens quand on est ouvert au public, je fais des animations, souvent en rapport avec l'environnement, parce que c'est quelque chose qui me touche. Et puis du coup, je gère le jardin de la médiathèque, entre autres, le jardin partagé, pédagogique plutôt. Alors, donc on est dans le Jardin des Merveilles, qui a été renommé cette année. Il existe depuis 2019. Alors, il ressemblait pas du tout à ça. Il est derrière la médiathèque. On l'a créé en projet participatif. Donc, on avait deux menuisiers avec nous, deux menuisiers amateurs. Pas si amateurs que ça, mais c'est pas leur métier. Et ils ont créé, du coup, des bacs potagers en bois. Et ça a été la base, et en fait, chaque année, on faisait des ateliers autour du jardin. Et cette année, vraiment, on est un peu sorti de ces bacs pour proposer un jardin plein sol. Et donc, avec Pauline Beneteau, qui est une intervenante, on a créé, avec les habitants de tout âge, on a des petits, on a des plus grands, on a créé un mandala, donc une forme ronde avec des petites clôtures et également des en bois de palette, donc de récupération. Et on a planté, alors pour l'instant, surtout des vivaces, des aromates, donc des choses qui vont rester dans le temps, des petits fruits, des arbres, etc. Et on est refuge LPO. Donc le refuge LPO, donc la LPO, c'est la Ligue de Protection des Oiseaux. Donc en fait, quand on fait partie de ce refuge, on s'engage à ne pas utiliser d'engrais chimiques, de préserver la biodiversité, de respecter la nature, d'accueillir du coup les oiseaux. Et donc voilà, comme on est refuge LPO, on fait tout pour que les humains et la biodiversité cohabitent sereinement. Du côté de notre fonctionnement, on fonctionne de façon très horizontale, et ça surtout grâce au directeur de la médiathèque, qui nous laisse une grande confiance, donc que ce soit pour toutes les personnes de l'équipe, il y a une grande confiance, il n'y a vraiment pas ce côté hiérarchique, parce que le directeur nous fait confiance, et il n'y a pas ce côté aussi, si on rate quelque chose, c'est grave. Ici, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas forcément fonctionné, des projets qui finalement n'ont pas abouti. Mais voilà, on aurait essayé, on l'a fait ensemble, et ben voilà. On essaie aussi de savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné, comment on aurait pu le faire autrement, mais ça nous permet aussi d'apprendre. Et aussi, après, avec la relation aux élus, ils ont aussi une grande confiance. C'est vrai qu'ils n'interviennent pas pour nous stopper, nous dire « c'est absolument pas ça qu'il faut faire ». Là-dessus, c'est vrai que les élus ont une grande confiance en nous.
Savoir qu'on a le droit de se tromper. Je crois que tout le monde devrait vraiment se répéter ce mantra le plus souvent possible, en fait.
Bah vas-y, on commence demain. Mais ça, dans une équipe, bah ça change vraiment tout, je suis d'accord. Parce que bon, il faut du temps pour que les actions marchent. Tout se fait pas en un claquement de doigts.
Et ça, sans que cette équipe essaye un management libre, horizontal, tout ça avec énormément de confiance. Y compris d'ailleurs avec les citoyens et citoyennes. Et surtout, ça fait du bien de voir que dans un équipement de la fonction publique, c'est pas quelque chose qu'on attend, tu vois, nécessairement.
La notion de temps est très présente ici, et il en faut pour travailler avec les gens. Sound is your land, Island is my land. From California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream's waters. This land was meant for you and me. Stylé, ce petit concert folk, ça faisait longtemps.
C'est pas la musique que j'écoute le plus souvent, mais j'ai vraiment adoré. Et surtout, le mec, le petit jeune avec les lunettes, il m'a scotché, le gars. Attends, il s'est levé pour faire une impro de gospel à la fin du set. Non mais c'était incroyable.
Et en parlant de Jones, ça te dit de faire un petit tour dehors? La nouvelle rampe de skatepark vient d'être montée juste en face. Tout ça 100% bois.
Il paraît que ça a été imaginé avec tous les jeunes du village, mais aussi les villages voisins. C'est encore un projet de préfiguration actuellement, mais je crois que l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose pour les JO 2024, il me semble.
Tu trouves pas ça dommage, toi, de tout bétonner?
Je crois qu'ils réfléchissent à des structures légères, éco-conçues et du coin. Et quand tu vois tout le bois qu'il y a autour d'ici, bon bah, t'as déjà de la matière. Mais je me pose la question, est-ce qu'ils intègrent la question de zéro artificialisation des sols dans leur démarche? En plus, je crois que c'est une loi qui est passée il y a quelques années.
Bonne question.
Alors moi, je suis Lola, je viens de Ravel et j'ai 15 ans.
Moi, je suis Jules, j'ai 15 ans et je viens aussi de Ravel. Au départ, vraiment, c'est nous qui avons eu l'idée. On est vraiment à la base du projet. On avait fait une... je ne sais même plus comment ça s'appelle, une convention... Non, où il y a plein de signatures. Une pétition à la mairie. On s'était vus, on avait fait des réunions pour parler du projet. Et on va dire que ce n'est pas finalisé, mais... Voilà.
Il y avait eu combien de signatures? Beaucoup.
Combien de signatures? Oh oui.
Il y en avait beaucoup. Parce qu'on avait demandé à tout notre collège de signer presque, toutes les personnes de notre village, et ça avait fait beaucoup de signatures.
Oui. Il n'y avait plus de place sur la feuille. Plus de place sur la feuille.
Et alors, pourquoi vouloir un skatepark près de chez vous?
Bah, ça permet de se retrouver, de faire plusieurs choses, parce que... On a déjà des terrains de tennis et de basket, mais ça fait longtemps qu'ils sont là et puis ça devient lassant. Du coup, on voudrait du nouveau.
Et surtout, on est... nous, souvent, avant, moins en ce moment, parce que moi je suis blessée, mais on fait souvent de la trottinette, du skate, du foot. C'est pour ça qu'on avait demandé soit un city, soit un skatepark ou des aménagements qui pouvaient plaire à tout le monde.
Ici, ça avance beaucoup mieux déjà, parce qu'ils nous demandent de venir plus souvent. Ils sont investis avec nous, alors que nous, dans notre village, on a fait une seule réunion ou deux, et ça stagne, ça avance pas. Enfin, on n'a pas de nouvelles, alors qu'ici, bah, on voit très bien qu'on avance, qu'ils sont investis avec nous, et franchement, ça fait plaisir.
Et aussi, on fait plein de projets. On est allé à Clermont plusieurs fois pour aller à la rencontre de professeurs de skate dans un collège de Vichy, je crois, de dirigeants d'un skatepark. On se réunit pour dessiner les modules, pour voir ce qui pourrait plaire à tout le monde. Voilà, on fait plein de projets. On discute aussi des matières à utiliser pour que ce soit assez écologique. Et aussi, ils veulent faire le projet de skatepark est prévu, mais il y a aussi autre chose autour. Ils veulent faire des installations autour, des bancs pour qu'on puisse venir se poser, que ce soit convivial, qu'il y ait des personnes âgées. Et le skatepark, il y aura sûrement plusieurs espaces pour que ce soit accessible aussi pour les jeunes, mais aussi pour les plus âgés.
Peut-être grâce à moi, grâce à moi et d'autres personnes, on va réussir à construire d'autres choses, voilà, c'est bien.
Pour moi aussi, c'est la première fois que je participe à un projet communicatif. Non,
collectif.
Voilà, oui. Et je trouve ça très bien de pouvoir participer au projet de la commune.
Eh ben ma vieille, je peux te dire qu'il y en a plus d'un qui voudrait monter un projet comme ça vers chez moi. Ils se reconnaîtront, les petits malins.
En tout cas, c'est génial de permettre à ces jeunes de s'emparer de ce projet, d'être à leur écoute. Et quand même, cette histoire de pétition au collège, ça me fait bien marrer.
Non, c'est clair, tu t'imagines avec tous tes petits papiers là en train de faire signer tous tes copains. J'adore, je t'aurais trop vu comme ça. C'est le début de l'engagement, ma petite dame.
Et je trouve super intéressant qu'ils voient ce lieu comme un espace intergénérationnel aussi. C'est quand même pas simple de faire venir des ados en pleine médiathèque.
Ouais, mais ouais, ils y arrivent. Et moi, franchement, j'ai hâte du jour où les petites mamies vont se mettre à skater. Franchement, je débarque ici direct.
Par rapport à ce lieu de vie, je ne demanderai rien d'autre qu'il continue à exister pendant très longtemps.
Tout est dit. Et on arrive au bout de ce petit périple au pays des volcans.
Quoi ? Qu'est-ce que j'apprends ?
Bah oui, reprends ton baluchon et hop, on file pour le train.
Ouais, allez, c'est parti. Bon, j'aimerais vraiment pas partir maintenant, mais bon. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça, toi, finalement ? Parce que c'est la première fois qu'on visite une médiathèque en soi. Hein. C'est pas vraiment un tiers-lieu ou c'est ça la question ?
Déjà, j'apprends quand même que l'appellation tiers-lieu aujourd'hui, bah, c'est plus une histoire de ce que tu fais dedans et comment tu le fais que de lieu de base. Je vois énormément de points communs avec tous les lieux qu'on a visités en saison 1 et 2.
Moi aussi. Après, on n'a pas du tout abordé la question du modèle économique.
Bah, c'est vrai que là-dessus, c'est quand même très différent. Comme c'est un équipement public géré par les budgets de la Comcom. Mais bon, finalement, est-ce que ça ne va pas devenir le cas de beaucoup de tiers-lieux en France ?
Ouais, enfin, en tout cas, ce que je retiens, c'est qu'il y a une belle, belle équipe et beaucoup, beaucoup de meufs badass là-dedans. J'aime bien ça. Ça me rappelle presque Coco Valten, tu vois.
Et c'est hyper inspirant. La dimension culturelle au service de l'intérêt général et de la socialisation prend vraiment tout son sens ici.
Bien plus que dans certains lieux d'ailleurs. Ici, je trouve que tu sens que le sujet, c'est de faire en sorte que tout le monde trouve sa place, se sente chez soi et accueilli, peu importe son âge et d'où il vient en fait.
Il y a une volonté de lutter contre l'isolement rural aussi. Et ça marche. C'est devenu the place to be, dans le bourg et ses alentours. J'ai l'impression que dès qu'une idée émerge, les gens ont envie que ça se fasse ici.
Et c'est le cas, hein, franchement. Toutes les idées que les gens nous ont racontées, ils ont envie de le faire ici, enfin beaucoup en tout cas, depuis 5 ans.
Et puis ils en ont fait un vrai espace politique, dans le sens vie de la cité, hein, j'entends.
Et à mon avis, on n'est pas au bout de cette histoire. L'équipe et les habitants et habitantes, main dans la main, eh ben, ils en ont encore bien sous le pied, hein, je te le dis.
Purée, mais t'as vu l'heure? Il va falloir courir là pour prendre le train.
Punaise, ouais, faut qu'on décale. Bon, et ben, let's go, hein. On se donne rendez-vous dans le prochain épisode, ça arrive tout bientôt. D'ici là, prenez soin de vous.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Tête Beaulieu. Un grand grand merci à François Touchard pour le mixage, à Hugues et Michon pour les musiques originales. Merci aussi aux merveilleuses équipes d'Hôtel 71 pour le studio et bien sûr aux équipes de la médiathèque d'Or et d'Allier de nous avoir accueillis pour ce séjour incroyable.
Et si vous avez aimé ce podcast, surtout n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes ou à laisser quelques commentaires, ça nous aiderait beaucoup. Et en attendant le prochain épisode, vous pouvez nous retrouver sur Instagram et LinkedIn. Toutes vos remarques, petits motos, recommandations sont vraiment les bienvenues, alors n'hésitez pas.
Salut, salut !